Bonsoir, nous continuons cette réflexion autour de la relation entre beauté et vérité, ce soir en ouvrant quelques pages de Saint Augustin. Lors de la première rencontre, je le dis pour les étourdis qui l'auraient oublié ou pour ceux qui n'étaient pas présents, j'ai conduit de manière assez simple, mais non pas simpliste, j'espère, une problématique qui concerne la relation entre beauté et vérité et qui se trouve en même temps se déployer du point de vue historique. C'est-à-dire qu'au fond, la question posée de la manière la plus simple, c'est « importe-t-il à l'expérience du beau qu'elle soit réelle ?» C'est la question la plus simple qu'on puisse poser. Est-il indifférent à l'expérience du beau que son objet soit réel ? Ce qui est, dans les mentalités, un propos convenu, imaginaire, enfin, vous voyez, tous les trucs. Et donc, cette question nous permet de suivre un parcours philosophique qui a en même temps donc, une dimension historique, puisque, en simplifiant à grands traits, puisque je suis condamné à résumer le propos de la dernière fois de manière rapide, on peut dire que la philosophie classique met la beauté dans l'être et tient l'équivalence de l'être, du vrai, du beau et du bien, tel que nous l'avons aperçu chez Platon, de telle sorte que, aux yeux de cette pensée, l'activité de l'art est au fond une activité mineure. On ne trouvera pas sous la plume de Platon et sous la plume d'aucun classique une célébration de l'artiste. D'ailleurs, le mot « artiste », j'ai eu l'occasion de le signaler, n'apparaît qu'à la fin du XVe siècle, au moment d'ailleurs où commencent à apparaître les signatures d'artistes, que les autres ne se préoccupaient pas de signer, et au moment où commencent à apparaître même les premiers autoportraits dans le coin du tableau jusqu'au moment où ils vont au centre du tableau. Et à ce moment-là, c'est le triomphe de la posture de l'artiste. Le deuxième moment de cette histoire assez passionnante qui est la nôtre, celle de la philosophie en Occident, comprend donc l'expérience de la beauté comme étant une expérience du sujet et comme qualifiant la relation que le sujet entretient avec l'objet, avec ce qu'il considère. Et à ce moment-là, si effectivement cette expérience de la beauté est une expérience du sujet, on peut concevoir qu'à la limite, elle soit indifférente à la réalité de son objet. Et puis on peut concevoir une place privilégiée du génie, qui lui serait un sujet particulièrement éclairé, particulièrement doué, tel qu'en lui puisse se reconnaître toute humanité. Et donc c'est le thème de l'artiste, prophète, flambeau, génie, qui va éclairer donc, les peuples et aura une toute autre mission, évidemment, que celle de l'obscur artisan qui façonna un chapiteau à Vézelay. Et la dernière époque que l'on qualifiera en lisant Nietzsche ou Heidegger place non pas la beauté dans l'être, non pas la beauté dans le sujet, mais la beauté dans l'œuvre. L'œuvre comprise comme une manifestation. Alors, si bien que dans ce trajet sommaire, simplifié, certains doivent être scandalisés des simplifications que j'utilise ici, je vous demanderai de ne pas les répéter sur la place publique. Donc, on peut comprendre, dans un premier temps, la vérité comme l'adéquation du discours ou de la représentation à l'être. Dans un deuxième temps, On peut comprendre la vérité comme l'adéquation du sujet à lui-même, dans une expérience de la certitude, dans une expérience du génie, éventuellement dans les formes amoindries, une expérience de la sincérité. Et enfin, dans une troisième forme, on peut comprendre la vérité, donc non pas comme l'accord avec l'être, non pas comme l'accord du sujet avec lui-même, mais comme l'accord de l'être et de sa manifestation. Et cette manifestation étant de manière privilégiée, ayant de manière privilégiée son séjour dans l'œuvre. Voilà pour ceux qui étaient absents, pour leur donner des regrets, n'est-ce pas, les quelques traits de la problématique que j'avais esquissée lors de notre dernière rencontre. Alors évidemment, avec Platon, nous avons rencontré, avec combien d'émerveillement, j'espère, une pensée sublime qui est tout entière orientée vers la contemplation et qui comprend donc la beauté comme la splendeur de l'être qui éveille le désir, qui suscite le désir et qui correspond à une véritable expérience de conversion. Nous allons voir la même chose avec saint Augustin. Et cependant, dans un monde tout à fait différent, puisque entre Platon et saint Augustin, il s'est passé quelque chose qui est un clivage fondamental dans l'histoire de notre pensée et dans l'histoire de l'humanité tout entière, c'est la révélation chrétienne. Et donc, saint Augustin est évidemment un lecteur de Platon, sans doute pas, mais de Plotin, certainement, et de platonicien, certainement. Donc la pensée de saint Augustin est une pensée qui découle d'un courant mystique inspiré par le platonisme. Mais cette expérience, elle est d'autant plus sensible chez saint Augustin que lui-même est un esthète. J'ai eu l'occasion, je crois déjà, et on le verra ce soir, de souligner la beauté des textes de saint Augustin. C'est extraordinaire. Saint Augustin est d'abord un rhéteur, d'abord quelqu'un qui prend un plaisir voluptueux, vraiment, à la qualité des discours. Avant sa conversion à Milan, il allait derrière un pilier écouter en douce les discours, les sermons de saint Ambroise, alors même qu'il n'était pas converti, simplement pour la musique du sermon et admirer cet art, cette beauté qui se déployait dans les discours de saint Ambroise. Et on peut penser que dans la conversion de saint Augustin, il y a un cheminement qui passe par l'expérience de la beauté, c'est ce que nous allons voir. On peut se rappeler, par exemple, que le premier livre de philosophie qu'il a écrit, qui d'ailleurs a été perdu, qu'il a écrit avant sa conversion, s'appelait « De pulcro et apto », c'est-à-dire « du beau et du convenable ». Et donc les premières réflexions de saint Augustin ont porté sur la beauté, puisque saint Augustin, dans sa grande sagesse, s'est converti à la philosophie avant de se convertir à la foi, ce qui est le chemin normal. Je disais donc, dans l'introduction aussi, je disais donc que cette expérience du beau pouvait être une expérience de conversion, et lors de notre première rencontre, j'ai eu aussi l'occasion d'expliquer que toute émotion nous mettait devant un carrefour. Donc la beauté, l'expérience de la beauté est une émotion. Une émotion, c'est toujours une saisie de l'être tout entier qui le fait tituber, qui lui fait perdre ses repères habituels, le rétrécissement de ses perceptions rendues nécessaires par l'action. Si mes perceptions doivent être rétrécies dans le cadre de l'action, elles sont dilatées dans l'émotion, et elles sont dilatées d'une telle manière que cette émotion donne une impression donc de titubation, d'ivresse, de perdre pied, et donc toute émotion, quelle qu'elle soit, est une perte d'assurance. Et cette perte d'assurance nous place devant un carrefour, avais-je dit. C'est-à-dire que soit elle va devenir action, puisqu'il n'y a rien, selon le beau mot de Paul Ricoeur, il n'y a rien de mu qui n'ait d'abord été ému. C'est-à-dire que l'émotion, c'est ce qui va mettre en œuvre l'action. J'avais pris comme exemple la dernière fois, la colère va faire naître le combat pour la justice. Il n'y a pas de combat pour la justice s'il n'y a pas d'abord une colère. Et puis cette colère, elle est motrice, elle est émotion. Donc elle va faire naître le combat pour la justice et elle va se déployer en action. Ou alors, la seconde branche du carrefour, l'émotion va virer en passion. C'est-à-dire qu'elle va s'alimenter d'elle-même, s'enchanter d'elle-même et devenir colère d'être en colère, car il vous arrive, je le sais, d'être en colère. Peur d'être en colère, être en colère d'avoir peur. Désirer, avoir peur de désirer, désirer, avoir peur d'avoir peur. Toutes nos émotions sont là. L'émotion, toutes nos passions, sont là. L'émotion, c'est l'émotion redoublée. La peur d'avoir peur, la peur de désirer, le désir d'avoir peur, le désir de souffrir. Les jeunes filles, après un film, disent « ce film était beau, j'ai pleuré ». Et cette expérience du carrefour de l'émotion, de l'expérience esthétique, saint Augustin l'a particulièrement éprouvée justement comme esthète. Par exemple, à propos du théâtre, saint Augustin était jeune esthète, amateur de théâtre, auquel même il continuait de se rendre, même s'il en avait quelque peu honte et s'il tâchait de se fermer aux émotions, aux hurlements, aux rigolades, aux larmes de la foule. Mais nul ne résiste, ou on résiste difficilement, donc aux emportements du spectacle, aux emportements du théâtre qui titillent nos passions, puisque le théâtre fait que nous aimons souffrir. On est content de souffrir. Le théâtre fait qu'on est content d'être content, etc. Donc toute œuvre d'art, en tant qu'elle est en tout cas donnée comme spectacle, est une sollicitation des passions. On peut regarder ensemble dans le recueil de textes qui vous est proposé. Si certains en manquent, j'en ai encore ici. Et on peut encore en demander. Le texte numéro 6. J'ai été ravi par le théâtre. Donc il vient des confessions. J'étais ravi par le théâtre et ses spectacles remplis des images de mes misères. On aime voir nos misères au théâtre. La misère est sauvée par la peinture, par le théâtre, etc. J'étais ravi par le théâtre et ses spectacles remplis des images de mes misères et des aliments de ma flamme. Comment se fait-il qu'au théâtre, l'homme veuille souffrir ? Devant le spectacle d'événements douloureux et tragiques, dont pourtant il ne voudrait même pas pâtir. Et pourtant, il veut pâtir de la souffrance qu'il y trouve, en spectateur. Et cette souffrance même fait son plaisir. Qu'est-ce là, sinon une étonnante folie ? Ce n'est pas à porter secours que l'auditeur est provoqué. Il faudrait être très naïf pour monter sur scène et se précipiter au secours de la victime. Ce n'est pas à porter secours que l'auditeur est provoqué, mais seulement à souffrir qu'il est invité. Et l'auteur de ses imaginations a davantage sa faveur chaque fois qu'il le fait davantage souffrir. Si ces malheurs humains qui appartiennent au passé ou à la fiction sont traités sans que le spectateur souffre, oh, celui-ci s'en va, dégoûté, bougonnant, j'ai même pas pleuré. Mais qu'il en souffre, il reste là, attentif et réjoui. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est incroyable comme nos contemporains aiment être émus, on est tenu de dire qu'on est ému. J'avoue que ça m'agace quelque peu. Je vous garantis que je ne suis absolument pas ému, sauf un peu agacé.
Alors d'où ça vient ça? Tout cela vient du beau courant de l'amitié. Il y a une amitié de l'homme pour l'homme. Et si je pleure au destin d'un héros imaginaire, alors que je ne pleure même pas au décès de ma voisine, je ne m'intéresse même pas au décès de ma voisine, et lorsque j'assiste au spectacle du décès d'un personnage imaginaire, je pleure et je me réjouis de pleurer. C'est ce que constate Hamlet au début de la pièce, lorsqu'il fait jouer des acteurs, et qu'il est scandalisé qu'il pleure à la mort d'Hécube alors qu'il est insensible à l'assassinat de son propre père. Alors on pourrait moraliser là-dessus et dire « fi donc, l'homme est vraiment un être indifférent et égoïste et cruel ». Ce n'est pas ce que fait Saint-Augustin. En effet, tout cela vient du beau courant de l'amitié. Et si je pleure sur Hécube, c'est parce que j'ai une amitié de l'homme pour l'homme. Tout cela vient du beau courant de l'amitié. Mais où va-t-il? Où coule-t-il? Pourquoi dévale-t-il dans le torrent de la poix brûlante, dans les bouillonnements monstrueux des noires voluptés, où il se change en eux et s'altère par son propre élan? Faut-il donc répudier la miséricorde? Même si, en effet, on approuve l'obligeante charité de celui qui souffre devant la misère d'autrui, il serait préférable pourtant, bien sûr, aux yeux de celui qui possède une véritable miséricorde, que cette souffrance fût sans objet. Il existe donc une souffrance qu'on doit approuver, aucune ne doit être aimée. C'est ainsi en effet que toi, Seigneur Dieu, donc nous sommes dans les confessions, qui est la récapitulation par saint Augustin de son cheminement spirituel, et les confessions sont le seul livre dans l'histoire de l'humanité à être écrit à la deuxième personne. Quand je dis seul livre dans l'histoire de l'humanité, il y en a un deuxième, c'est la chute d'Albert Camus, qui est justement entièrement inspiré de saint Augustin, puisque Albert Camus a fait son mémoire sur Saint-Augustin, qui était son compatriote. Je relis, parce que je me suis interrompu sottement. Il existe donc une souffrance qu'on doit approuver, aucune ne doit être aimée. C'est ainsi, en effet, que toi, Seigneur Dieu, qui aimes les âmes, tu montres une miséricorde amplement et profondément plus pure que nous, plus incorruptible, parce qu'aucune souffrance ne te blesse, et de cela, qui est capable? Mais moi, à cette époque, dans ma misère, j'aimais souffrir. Et je demandais qu'il y ait à souffrir. Ainsi, à la représentation de l'infortune d'autrui, imaginaire et mimée, je prenais plus de plaisir au jeu de l'acteur et je lui trouvais un attrait plus violent lorsqu'il m'arrachait des larmes. Telle était ma vie. Était-ce une vie, ô mon Dieu? Était-ce une vie que celle d'un homme qui transpose son cœur sur la scène? D'un homme qui devient extérieur à ses propres émotions pour en être le spectateur, et qui est ému non seulement parce que le personnage est fictif, mais parce qu'il est sorti de lui-même, et qu'il a mis toutes ses entrailles sur la scène, il a mis toutes ses émotions sur la scène, il est ce que les philosophes appellent aliéné. Quand le spectateur est vissé sur son fauteuil, condamné à chialer sans pouvoir agir, il est aliéné, puisque la condition pour qu'il pleure, c'est qu'il ne bouge pas. C'est pour ça qu'on le visse sur un fauteuil. Et que donc il connaît la séparation fatale du spectateur et du spectacle, qui est la première schizophrénie, et qui fait que l'amitié de l'homme pour l'homme se voit entraînée en passion. Oui. Donc nous sommes bien devant ce carrefour que j'évoquais l'autre fois. Toute émotion deviendra ou passion ou action. Tu es en colère, est-ce que tu agites le poing et tu te mets à brailler, et à ce moment-là ça devient une passion et tu aimes ta colère, ou est-ce que tu prends les armes et tu vas te battre, et si tu te prends les armes, tu n'as pas intérêt à trembler. Quand tu tires, il ne faut pas être en colère. Et donc l'action, la réalisation et le surmontement de l'émotion. Donc Saint-Augustin nous met bien devant ce carrefour. Mais l'enjeu que nous allons découvrir ce soir, c'est que cette expérience esthétique voit sa vérité mise en lumière de façon très différente de ce que nous avions pu rencontrer avec Platon, parce qu'entre-temps est apparue la révélation chrétienne. Que nous dit la révélation chrétienne que jamais l'humanité n'avait pensé auparavant ? Trois choses. Première chose que la foi chrétienne biblique nous dit et qui n'avait jamais été pensée auparavant, c'est que le monde a été créé. Ne vous imaginez pas que toutes les mythologies ont dit que le monde était créé. Si quelqu'un vous dit ça, vous lui claquez la porte au nez. Il n'y a que dans la Bible que le monde soit créé, c'est-à-dire tout entier suscité dans une altérité absolue. Non seulement tout entier suscité dans une altérité absolue, c'est-à-dire pas façonné à la manière d'un potier, donc la Bible n'emprunte pas des métaphores artisanales de poterie, ni des métaphores sexuelles d'accouplement fondateur du ciel et de la terre, ou que sais-je, ni métaphores artisanales, ni métaphores sexuelles, mais un pur geste que la lumière soit. Et cette création donc suscite le monde comme autre et comme bon. Car le texte nous dit « Dieu vit que cela était bon ». Et donc la grande nouveauté chrétienne, c'est que le monde est bon. Platon, on l'a aperçu la dernière fois, est le premier à nous dire « Dieu est bon ». Timée 29c. Mais le monde que le démiurge de Platon façonne est un monde qui n'est pas bon parce qu'il est justement lesté de matière et le démiurge ne parvient qu'à grand-peine à refermer les cercles du même et de l'autre pour introduire un peu d'ordre dans cette matière qui de toute façon va lester l'origine du monde d'une imperfection fondamentale. Et donc pour les anciens, le mal c'est la matière. Enfin, pour les anciens et pour tout le monde. Le mal, c'est la matière, le mal, c'est le monde, et le monde est mauvais en tant qu'il résiste au modèle parce qu'il est fait de matière. Et c'est en cela que l'idée de création est radicalement inouïe. Elle n'a jamais été prononcée dans aucune autre civilisation. Il faut insister là-dessus. Et en particulier, s'il s'agit de dire que ce monde est bon. Alors, vous voyez, lorsque Platon nous disait... Ce monde visible, par l'expérience de la beauté, nous conduit à l'invisible. Il nous suggérait que ce monde visible n'était qu'une étape impure et imparfaite, une marche qu'il fallait dépasser. Telle ne peut pas être la pensée chrétienne si elle reconnaît dans son intégrité l'idée de la création. On ne peut pas y voir le monde visible, le monde sensible, comme une figuration imparfaite. Il est bon, ce monde. La deuxième nouveauté chrétienne, dont nous ne sommes pas encore remis, qui commence à peine, car le christianisme commence à peine, s'il y a 12 chrétiens par siècle, c'est déjà bien. J'aimerais être un de ceux-ci. Le second élément fondamental de la nouveauté chrétienne, qui d'ailleurs est lié à l'idée de création, c'est l'idée de personne. C'est l'idée de personne, c'est-à-dire que le sujet humain est un sujet doué de sensibilité, de volonté et de raison. Et si Dieu se manifeste, ça n'est pas tant dans le monde que dans la personne. Je vous signale que tel est le sens du récit de la Genèse, puisque le récit de la Genèse a pour sens de manifester que si Dieu a créé les étoiles et le soleil, alors les étoiles et le soleil ne sont pas divins, et que l'aboutissement de la création, c'est la personne, faite à l'image de Dieu. Si donc je veux trouver dans ce monde une image de Dieu, ça ne sera pas les étoiles, la lune, les fleurs de pissenlit, mais c'est l'homme, la personne. Donc les chrétiens nous proposent d'aller à Dieu par la personne et non pas par le monde.
on manque encore beaucoup de chrétiens. Et de comprendre donc que c'est dans la personne que se manifeste l'œuvre de Dieu. Tel est le sens des confessions de saint Augustin. Puisque dans les confessions, saint Augustin veut montrer quoi ? Il veut montrer l'œuvre de Dieu. Et quand saint Augustin veut montrer l'œuvre de Dieu, il ne montre pas les canaries, les étoiles, les rivières, les océans et l'accouplement des éléphants, il montre la vie d'un homme. D'où la troisième révélation chrétienne, la plus surprenante de toutes, celle dont on n'est toujours pas remis, qui est l'idée du péché. Car si si la création est tout entière bonne et si la personne est créée à l'image de Dieu, le mal ne peut venir que de la liberté. Le mal ne vient pas des choses. Ce ne sont pas les choses qui sont mauvaises. Ni l'or ni la merde ne sont impures. Les choses en elles-mêmes sont bonnes, telles que sorties de la main de Dieu. S'il y a du mal, c'est par l'œuvre de l'homme, ce qu'on appelle le péché. Alors voilà pourquoi l'expérience de la création nous reconduit à ce mystère. L'expérience de la beauté donc nous reconduit à ce mystère parce qu'elle va, selon saint Augustin, manifester de manière éminente cette équivalence qui est celle de la création entre l'être, le vrai et le bon. C'est-à-dire que toute réalité, si vous comprenez bien l'idée de la création, toute réalité est bonne en tant qu'elle est, que ce soit la merde ou l'or. Et si une réalité n'est pas bonne, elle est de l'ordre de la volonté, mais elle n'est pas de l'ordre des objets de la nature. Et cette équivalence de l'être du vrai et du bon est celle que nous apercevons dans la beauté. Quand nous avons le sentiment d'une perfection, d'une chose à laquelle on ne peut rien ajouter, rien enlever. Ce qui est parfait, c'est ce à quoi on ne peut rien ôter, ce à quoi on ne peut rien ajouter. Et lorsque nous faisons l'expérience de la beauté, que ce soit celle d'une cruche, d'un tableau ou d'un soleil couchant, nous avons bien le sentiment que précisément on ne peut rien ajouter, rien enlever. Ni personne devant un soleil couchant ne dirait « ce nuage est un peu trop à droite ». Je peux le dire devant un tableau. Dans un tableau, je peux dire « non, le nuage est un peu trop à droite ». J'aurais mis le nuage ailleurs. Mais devant un soleil couchant, vous ne pouvez pas dire « le nuage est un peu trop à droite ». Voilà. Et donc, l'évidence, en quelque sorte, de ce monde se manifeste dans la beauté. Je lis un passage où saint Augustin exprime cela avec sa force habituelle, dans De vera religione, de la vraie religion, au chapitre 11. Alors bon, il discute des objections avant. J'en viens au moment de la transition. Non pas que le corps soit néant. Donc on n'est pas du tout dans un contexte de mépris du corps, de dévalorisation de la matière. Non pas que le corps soit néant. Il possède lui aussi une certaine harmonie de ses parties. Sans quoi, il ne pourrait absolument pas être. Je relis l'argument. Le corps n'est pas un néant. Preuve qu'il n'est pas un néant. C'est pas qu'on peut le toucher ou... Enfin quoi, qu'on peut le découper. La preuve qu'il n'est pas un néant, c'est qu'il a en lui une certaine harmonie, car s'il n'avait pas d'harmonie, il n'aurait pas d'être. C'est plus fort encore que l'affirmation selon laquelle l'être a de l'harmonie. Si je veux attester la réalité d'une chose, c'est en tant qu'elle comporte une harmonie. Et c'est pour ça que le péché, c'est la promotion du non-être. Mensonge, meurtre, rêverie, tout ce que vous voulez... Le péché, c'est toujours la promotion du non-être, l'option préférentielle pour le non-être. Je relis. Non pas que le corps soit néant, il possède lui aussi une certaine harmonie de ses parties, sans quoi il ne pourrait absolument pas être. Il est donc lui aussi œuvre de celui qui est principe de toute harmonie. Il possède un certain équilibre de forme,
sans quoi il ne serait rien. Donc une chose est par sa forme. Et la beauté nous suggère bien qu'une chose est par sa forme. Il est donc lui aussi constitué par celui dont procède tout équilibre, la forme incréée et de toute la plus accomplie. Il possède un certain aspect de beauté sans quoi il ne serait pas un corps. Je relis. Il possède un certain aspect de beauté sans quoi il ne serait pas un corps. Habet aliquam speciem sine qua corpus non est corpus. Si donc on se demande qui a constitué les corps, qu'on cherche entre tous les êtres celui qui possède la beauté idéale, car toute beauté procède de lui. Or, qui est-il, sinon le Dieu unique, vérité unique, unique salut pour tous, essence première et souveraine, de tout, de qui tout être tient la mesure de son existence ? Car tout être, dans la mesure où il est bon. Dans la mesure où il est harmonieux, il est, et dans la mesure où il est, il est bon. Et c'est dans la mesure où il n'est pas, c'est-à-dire dans la mesure où il est déficient, qu'il comporte un mal. Quia in quantum est quid est, bonum est. Tout être, dans la mesure où il est bon. Cela nous explique que, à chaque point de la vie sensible, comme je le disais dans cette longue introduction, à chaque point de la vie sensible, nous sommes comme devant un point de flexion. D'ailleurs, c'est une image plotinienne, une image inspirée de Plotin. Un point de flexion qui peut simultanément être un point de chute et un point de conversion. Saint Augustin nous le dit, on se relève là où on est tombé. Rien n'est plus profond que cette pensée. On se relève là où on est tombé, là où on est tombé, c'est-à-dire que c'est le même point qui est le point de conversion et le point de chute. C'est ce que je vais rapidement montrer en deux moments. Premier moment, nous consacrerons à la lecture de certaines pages qui nous montreront quelle conception de la beauté est celle de Saint Augustin. Et puis, dans un deuxième temps, nous suivrons le chemin de conversion qui est celui-même que Saint Augustin nous décrit dans l'œuvre de Dieu qu'est sa propre vie, comment, dans l'expérience de la conversion, saint Augustin a pu récapituler sa vie d'esthète et en même temps la transfigurer. Analyse de la beauté. Alors, en cela, saint Augustin nous met déjà sur la voie de ce que nous dirons les modernes, c'est-à-dire que dans l'expérience de la beauté, il y a un jugement. Il y a un jugement, c'est-à-dire l'alliance d'une expérience sensible et d'une connaissance. Une alliance de la sensibilité et de la raison, parce que la beauté est toujours forme. Et que nous connaissons les choses en tant que nous pouvons les appréhender dans une forme. L'informe, c'est l'inconnaissable. L'informe, c'est le non-être. Le chaos, la causalité errante, que sais-je, le magma, prenez l'image qui vous inspire le mieux. Mais l'informe est absolument impensable. Nous ne connaissons que la forme. Ce que l'on voit bien, par exemple, dans la recherche concernant l'atome, nous explorons la matière à travers le pochoir d'une forme. Et nous ne connaissons que pour autant que nous pouvons appliquer ce pochoir et nous donner par là une intelligibilité de notre expérience sensible. Et ça ne signifie pas donc que la beauté soit exclusivement forme intelligible, puisque il faut insister sur le fait que la beauté est toujours une expérience des sens. Expérience de la vue, de l'ouïe, saint Augustin l'étant même, nous le verrons, aux cinq sens, et donc elle est toujours un bouleversement même des sens, comme nous l'avons dit, mais ce bouleversement qui est sauvé
aussitôt dans la contemplation de la forme, qui est caractérisée par trois traits. Ça, c'est repris de Plotin. L'unité, l'égalité, la symétrie. Et une chose est belle, pour autant qu'elle est douée d'unité, d'égalité et de symétrie. La symétrie étant d'ailleurs la récapitulation des deux qualificatifs précédents, car ce qui est symétrique instaure un axe d'unité et donne une manifestation donc de l'égalité. Lorsque saint Augustin, dans le De Musica, dit que le corps humain est beau, c'est précisément parce qu'il est symétrique et que tout ce corps est construit autour d'un axe de symétrie qui permet donc de développer l'harmonie de la forme de ce corps. J'ai trouvé dans Shakespeare un propos qui m'a beaucoup amusé et qui est tout à fait augustinien dans son délire. C'est pas le roi Lear, c'est son fou qui pose une devinette et qui dit: pourquoi avons-nous deux yeux? Et la réponse à la devinette, pourquoi avons-nous deux yeux, c'est pour avoir un nez au milieu. C'est superbe comme réponse. Et c'est une réponse tout à fait augustinienne, c'est-à-dire qu'il y a dans le corps humain simultanément un axe et une symétrie. Et cet axe donc va de notre visage à notre sexe et c'est autour de cet axe que se déploie la symétrie du corps et qui fait d'une certaine manière l'homme l'image de Dieu par sa beauté. Dans De Vera Religione encore, qui est c'est un traité sur la vraie religion, qui est en vérité un traité sur la beauté. C'est très intéressant que donc le De Vera Religione, c'est un traité d'apologétique. Saint Augustin veut montrer que le christianisme est la vraie religion. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'argument est entièrement esthétique. C'est-à-dire que le christianisme est la vraie religion parce qu'il n'y a que le christianisme qui permette de comprendre la profondeur de l'expérience de la beauté. Et donc il ne va pas le justifier, le christianisme, par je ne sais pas quoi. Curieusement, il le justifie par l'esthétique. L'harmonie veut l'égalité et l'unité réalisées par la ressemblance des éléments symétriques, soit par la proportion des éléments dissemblables, donc symétrie ou proportion. Donc on est dans une esthétique classique. Qui donc, dès lors, pourrait découvrir entre des corps une égalité et une ressemblance parfaite, et oserait dire, après pur examen, que tout corps est vraiment un à proprement parler. Tout corps change, passant d'un aspect à un autre, d'un lieu à un autre, se compose de parties dont chacune occupe sa place, moyennant quoi il se situe diversement dans l'espace. L'égalité et la ressemblance véritable, comme la véritable et première unité, ne s'aperçoivent pas avec des yeux de chair ni aucun sens du même genre, mais bien avec une intellection de l'esprit. C'est-à-dire que la saisie de la forme, comme je le disais, est un acte simultané de la chair et de l'esprit. D'où viendrait en effet cette exigence d'une égalité dans le corps et la conviction qu'elle diffère infiniment de l'égalité parfaite, si l'esprit ne la voyait, cette égalité qui est parfaite. Cette unité et harmonie, Platon la décrit un peu plus loin, Saint-Augustin la décrit un peu plus loin, en posant la question classique que tout le monde se pose et que toute la philosophie poursuit depuis des siècles. Le but pour beaucoup est le plaisir. L'expérience de la beauté est un plaisir. Saint-Augustin nous a appris que le plaisir était l'expérience fondamentale de l'humanité, puisque un plaisir est la seule émotion que l'on ne puisse pas contraindre. On ne peut pas obliger quelqu'un à avoir du plaisir. C'est le problème des parents quand ils veulent faire manger autre chose que des chamallows. En revanche, on ne sait pas comment faire plaisir à quelqu'un, c'est pour ça qu'on se fatigue, alors qu'on sait très bien comment le faire souffrir. Donc le plaisir est dans notre sensibilité même, c'est ce que dit saint Augustin, le plaisir est dans notre sensibilité même l'attestation de notre liberté. Le lieu même de notre liberté. Et c'est pour ça qu'il est très important de dire que l'expérience esthétique est une expérience de plaisir. Parce que ça veut dire qu'il y a une expérience, nous le reverrons avec Kant, qui l'a pensé encore plus clairement, qu'il y a dans la sensibilité une expérience de liberté. Parce qu'on conçoit facilement que la raison est libre, on conçoit facilement que la volonté est libre, on conçoit difficilement que la sensibilité est libre. Eh bien si, la sensibilité est libre, la preuve, le plaisir. On ne peut pas contraindre un plaisir. C'est le fantasme des pervers de vouloir contraindre au plaisir. Ça ne marche pas, c'est pour ça qu'ils sont pervers. Je vous le signale. Le but pour beaucoup est le plaisir. Ils se refusent à viser plus haut, ce qui leur permettrait de juger pourquoi ces objets visibles sont agréables. Supposons que je demande à un maçon qui vient de construire une ogive pourquoi il en entreprend une seconde toute pareille en face, du côté opposé. Il répondra, je pense, pour que dans ma construction, les parties semblables se correspondent. Si j'insiste et lui demande pourquoi il adopte précisément cette disposition, il dira que cela convient, que c'est beau, que cela plaît. Il ne se hasardera pas plus loin. Il s'en remet à ses yeux sans comprendre le principe. Mais en présence d'un homme doué du regard intérieur et qui voit dans l'invisible, j'insisterai et lui demanderai pourquoi cette symétrie est agréable, afin qu'il s'enhardisse à juger précisément le plaisir. Car alors il le domine, il cesse d'en être captif, jugeant non plus d'après lui, mais de lui. Je lui demanderai d'abord si ces objets sont beaux parce qu'ils plaisent ou s'ils plaisent parce qu'ils sont beaux. Ça vaut le coup de répéter cette question qui est la plus simple. Ces objets sont-ils beaux parce qu'ils plaisent ou plaisent-ils parce qu'ils sont beaux? Il me répondra sans hésiter. Ah, vous hésitez, hein? Attendez, je recommence. Je lui demanderai d'abord si ces objets sont beaux parce qu'ils lui plaisent ou s'ils lui plaisent parce qu'ils sont beaux. Et il me répondra sans hésiter qu'ils plaisent parce qu'ils sont beaux. C'est un classique. Maintenant, vous en savez assez pour pouvoir dater ce texte. Oui, il y a encore une demi-heure, vous n'auriez pas pu le dater. Maintenant, vous pouvez dater ce texte, vous dire ce texte est de telle époque. Il me répondra sans hésiter qu'ils plaisent parce qu'ils sont beaux. Je lui demanderai donc ensuite pourquoi ils sont beaux, et s'il hésite, je lui soufflerai que peut-être c'est parce que les parties semblables sont ramenées par un certain mode d'assemblage à l'unité d'une harmonie. Et cette unité, dit saint Augustin plus loin, est la manifestation de la vérité. Vérité, donc j'insiste, puisque j'ai parcouru tout à l'heure rapidement trois acceptions de la vérité. Adéquation à l'être, adéquation du sujet à lui-même, adéquation de l'être à sa manifestation. Ici, donc, c'est la vérité comme adéquation à l'être qui est manifestée par l'harmonie. C'est-à-dire, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure lors de notre précédente rencontre, en disant que pour un grec, pour un ancien, ce qui est beau, c'est ce qui est conforme à son concept, ce qui est conforme à son essence. J'avais pris un exemple un peu négligent, j'avais dit un beau salaud. Bon, c'est un exemple un peu facile. Mais quand on dit un beau salaud, ça veut dire un salaud parfaitement salaud, donc un salaud identique à son concept. Alors maintenant, un salaud peut-il être beau? C'est une autre question que saint Augustin certainement aurait rejetée. Les corps nous trompent dans la mesure où ils ne réalisent pas pleinement l'unité qui, on l'a vu, est leur modèle et le principe par quoi tout être est un. S'il nous est naturel de trouver bien tout ce qui tend à lui ressembler, c'est qu'il nous est naturel de trouver mal tout ce qui s'écarte de l'unité. Dès lors, on comprendra qu'il existe une réalité tellement semblable à cette unité unique, principe d'unité pour tout ce qui est en soi peu un, qu'elle l'accomplit parfaitement, tout comme si elle lui était identique, et c'est la vérité, le Verbe qui est au commencement, le Verbe Dieu en Dieu. Si en effet l'illusion vient des objets qui imitent l'unité
non en tant qu'il limite, mais en tant qu'il n'arrive pas à l'accomplir. La vérité est ce qui est arrivé à l'accomplir et, lui l'être, et, lui, et à lui être identique, ce qui précisément la manifeste telle qu'elle est. C'est pourquoi on l'appelle à très juste titre à la fois son Verbe et sa lumière. Tous les autres êtres peuvent être dits semblables à cette unité dans la mesure où ils sont. Car dans la mesure où ils sont vrais. Quant à elle, elle en est la parfaite image et donc la vérité. C'est par la vérité, en effet, que le vrai est vrai, comme c'est par la ressemblance que tout semblable ressemble. La vérité, donc, est la forme des choses vraies, comme la ressemblance est la forme des choses semblables. Pas de beauté sans vérité, puisqu'il n'y a pas d'être sans beauté, qu'une chose est en tant qu'elle est belle, et que cette beauté est unité, et que l'unité est précisément ce qui caractérise la vérité. Or, nous voici revenus au carrefour. Mais ici, Saint-Augustin va nous conduire plus loin. Car nous venons de voir, donc, toute chose est en tant qu'elle est harmonieuse, elle est vraie en tant qu'elle est douée d'unité. Cette expérience de la beauté et de la vérité nous invite, non pas à nous tourner vers les choses, à nous jeter vers les choses et à les chercher toujours davantage, justement dans la quête qui est celle de l'esthète, mais nous invite à un mouvement de conversion, c'est-à-dire à une expérience intérieure. Voilà le dernier mot. Sur ce que peut dire Saint-Augustin de la beauté, c'est que l'expérience de la beauté est une expérience qui nous invite à rentrer en nous-mêmes et non pas à nous distraire. Et c'est la raison pour laquelle le spectacle n'est pas une expérience culminante de la beauté. Oui. Parce que le spectacle m'invite à sortir de moi-même. S'il fallait distinguer, on pourrait distinguer l'art et le spectacle. Le spectacle m'invite à me distraire, à sortir de moi, à m'évader, à m'échapper, à m'aliéner, disais-je tout à l'heure. S'il y a un art authentique, ce n'est pas celui qui va m'inviter à m'échapper, à me distraire, à m'évader, mais au contraire à rentrer en moi et à approfondir mon expérience du monde, mon expérience de la vérité. On entend parfois des gens dire que la beauté nous permet de nous évader, je ne sais pas quoi. Moi, pour m'évader, j'ai le whisky. C'est plus sûr et c'est meilleur. Et donc, s'il s'agissait de s'évader, d'abord, je n'ai pas l'impression d'être en prison, donc je ne vois pas pourquoi je m'évaderais. Mais enfin bon, si vraiment vous voulez vous évader, je vous conseille le whisky. Les quelques expériences de beauté que nous pouvons avoir dans l'œuvre d'art, elles nous rendent plus attentifs, elles ne nous font pas rêver. S'ils nous font rêver, c'est un échec. Oui, une grande œuvre a contribué à me rendre plus attentif. Sortant d'un grand film, je suis devenu plus attentif. J'ai mieux vu mes contemporains. Je n'ai pas voulu retourner dans la salle obscure en disant « retournons vite à nos rêves ». Mais au contraire, j'ai été invité à mieux regarder ce monde. Eh bien, c'est en quelque sorte ce que Saint-Augustin pense avec plus de profondeur que je ne l'exprime ici, lorsque donc il nous dit que l'expérience de l'harmonie est une invitation à rentrer en soi-même. Je suis toujours dans le dewera religione de la vraie religion. L'artiste souverain a tissé ses œuvres comme une toile pour... comme une toile ayant pour seule fin la beauté. Ainsi, sa bonté, du haut en bas de l'échelle des êtres, n'a refusé nulle part une beauté qui ne pouvait venir que de lui. Ce monde est bon, ce monde est beau, la beauté n'est refusée nulle part, de la chose la plus infime à la chose apparemment la plus sublime. Rien n'est mal dans ce monde. Si bien que personne ne peut s'écarter de la vérité vraie sans se retrouver en face d'une certaine image de la vérité. Demande-toi ce que le plaisir offre de captivant. Et tu verras que ce n'est rien d'autre qu'une harmonie. Je ne sais pas si nos contemporains seraient d'accord.
Par exemple, on s'éclate. Je ne sais pas si c'est une expérience de l'harmonie. Tout le monde s'éclate. Radio Pirate, tout le monde s'éclate. C'est pas forcément la perception justement de, c'est peut-être une ivresse, mais sans doute pas une expérience de la beauté. Bon, enfin, revenons à Saint-Augustin. Si bien que personne ne peut s'écarter de la vérité vraie sans se retrouver en face d'une certaine image de la vérité, demande-toi ce que le plaisir offre de captivant et tu verras que ce n'est rien d'autre qu'une harmonie. Car si le désaccord produit la douleur, l'accord produit le plaisir. Reconnais donc ce qu'est la souveraine harmonie. Au lieu d'aller au dehors, rentre en toi-même. C'est au cœur de l'homme qu'habite la vérité. La vérité n'est pas dans les choses. C'est pour ça que j'ai insisté sur la nouveauté chrétienne. Tu peux toujours aller chercher la vérité dans les choses, tu feras de la science, ça sera bien, il faut en faire. Mais l'expérience essentielle de la vérité est au cœur de l'homme. Au lieu d'aller au dehors, rentre en toi-même, c'est au cœur de l'homme qu'habite la vérité. Et si tu ne trouves que ta nature sujette au changement, va au-delà de toi-même. Mais en te dépassant, n'oublie pas que tu dépasses ton âme qui réfléchit et par conséquent porte-toi vers la source où s'éclaire la réflexion. Où donc aboutit en effet toute démarche correcte de la raison, sinon à la vérité, puisque la vérité ne s'atteint pas elle-même par réflexion, mais est justement le but que cherche la réflexion. Là voilà l'harmonie que nul autre ne saurait surpasser. Accorde-toi à elle. Avoue que tu ne lui es pas identique, puisqu'elle n'a pas à se chercher, tandis que toi tu es venu à elle en cherchant, non pas d'un lieu à un autre, mais par le désir. Qui t'a fait trouver, non dans le vil plaisir de la chair, mais dans un plaisir spirituel très haut, l'accord de l'homme intérieur avec l'autre qui est en lui. Ça aussi, c'est plotinien. Parce que si on dit que la beauté est unité, symétrie, égalité, cela veut dire que cette beauté, cette symétrie, cette égalité, elle est à réaliser en moi. La fameuse expression de Plotin que tout le monde va répétant maintenant, sculpte ta statue intérieure, et qui sert de slogan pour des magasins de parapharmacie et de cosmétiques, c'est exactement ce qu'elle veut dire. Lorsque Plotin dit sculpte ta statue intérieure, ça veut dire tu ne peux répondre à l'expérience de la beauté qu'en devenant beau. Et je suis beau à proportion où je fais cette expérience de l'harmonie, de la réconciliation, et que je suis en mesure de faire ce chemin. C'est pourquoi nous pouvons comprendre, dans un deuxième temps, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Si je suis obscur, vous ayez la charité de m'aider. Donc c'est comme ça que Saint-Augustin donc rapporte sa conversion donc dans les confessions. Puisque le mot confession est à prendre dans tous les sens du mot, confession de la foi, je confesse ma foi en Dieu. C'est par là même la confession de Dieu, je confesse l'existence de Dieu, et puis c'est aussi la dimension du repentir. Et donc Saint-Augustin, s'il comprend que l'œuvre de Dieu est sa vie, que sa vie est en quelque sorte l'œuvre d'art de Dieu, c'est aussi parce qu'il comprend que ce qui l'a fait rentrer dans la disharmonie, ce qui l'a fait rentrer dans le désordre, c'est le péché et non pas l'impureté des choses. Donc il n'y a de mal que de la liberté et de désordre que de la liberté, non pas dans les autres, parce que ça je le vois assez bien, mais en soi. Alors, saint Augustin, quand il qualifie sa vie de péché, dans certaines pages, l'appelle dit qu'il a erré dans la région de la dissimilitude. L'expression, là aussi, est empruntée à Plotin. Puisque vous comprenez, si la beauté est harmonie, si elle est unité, La vie parfaite est celle qui imite son modèle, est tout entière orientée vers son modèle. Si l'homme est créé à l'image de Dieu, eh bien, il est beau pour autant que cette image resplendit en lui, qu'elle soit une sorte de manifestation divine rayonnante dans sa beauté, dans sa charité. Et puis, si le péché fait que le pécheur veut s'approprier la ressemblance, l'idolâtrie, c'est ça, c'est vouloir s'approprier la ressemblance, eh bien, celui qui s'approprie la ressemblance va rentrer dans la région de la dissemblance. Parce que, s'appropriant l'image, il va perdre la ressemblance. Revenons encore rapidement au récit de la Genèse que beaucoup croient connaître mais qui est si peu lu. Car dans le récit de la Genèse, vous vous rappelez ce que Satan dit à Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. C'est superbe. Car le texte vient de nous dire qu'ils furent créés à l'image de Dieu. À son image, il les créa. Et que promet Satan ? Il dit, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, Satan promet à Adam et Ève ce qu'ils sont déjà. De toute façon, parce qu'il n'a rien à donner. Quel est donc le péché ? Le péché, c'est de vouloir s'approprier ce qui a été donné. Transformer, et c'est pour ça que c'est l'idolâtrie, c'est transformer en propriété ce qui a été donné. Et tout péché a cette forme de vouloir être appropriation du don. Vous n'aimez pas que vos amis aillent revendre sur eBay les cadeaux que vous leur avez faits. Voilà, comme vous êtes. Car un cadeau n'est pas une propriété. C'est pour ça qu'on ne peut pas le revendre. C'est pour ça qu'il prend la poussière dans le placard. Je peux à la rigueur le transmettre, mais le cadeau sort du circuit marchand. La dissemblance, c'est vraiment l'appropriation idolâtre de la ressemblance. C'est se prendre pour Dieu. Il se prend pour un Dieu. Lisons saint Augustin. Dans les Confessions, au chapitre 7. Ô éternelle vérité, c'est toi qui es mon Dieu, après toi je soupire jour et nuit. Quand pour la première fois je t'ai connu, tu m'as soulevé pour me faire voir qu'il y avait pour moi l'être à voir et que je n'étais pas encore à le voir. Tu as frappé sans cesse la faiblesse de mon regard par la violence de tes rayons et j'ai tremblé d'amour et d'horreur et j'ai découvert que j'étais loin de toi, dans la région de la dissemblance. Comme si j'entendais ta voix me dire des hauteurs, je suis l'aliment des grands. Grandis et tu me mangeras et tu ne me changeras pas en toi, mais c'est toi qui seras changé en moi. C'est toi qui seras changé en moi, c'est-à-dire c'est passé de la dissimilitude à la similitude. Et donc cette expérience dans le texte que vous avez dans votre recueil, au paragraphe 5, elle est bien exprimée, donc bien décrite comme une conversion à partir de la beauté. Je commence par le texte le plus célèbre dont la beauté a fait la célébrité et la permanence. Donc 5 bis. Bien tard, je t'ai aimé. Sero te amawi. Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard, je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors. C'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi. Ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé et j'ai respiré, haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté et j'ai soif et faim, Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. » Où l'on reconnaît les cinq sens. Donc une expérience totale de la beauté. Ce qui ne sera jamais vrai de l'art. Les artistes sont à la recherche d'un art total. Il n'y a qu'un art total, c'est la vie. Vous voulez un art qui sollicite toutes les sensations, c'est la vie. Il n'y en a qu'un. Sinon, les arts ne sollicitent que l'audition ou la vue. Certains disent que la cuisine est un art. Bon, soit. L'expérience de la conversion telle que l'évoque saint Augustin, eh bien, la transfiguration de tous les sens. Tu as dissipé ma cécité, j'aspire à toi, j'ai faim, j'ai soif, tu m'as touché, je me suis enflammé par ta paix, pour ta paix, tu as brisé ma surdité. Vous voyez, nous sommes très loin d'une approche de l'art, nous sommes bien plus dans une expérience de la beauté. Une expérience de la beauté peut être totale, un art ne peut pas être total. Une expérience de la beauté me bouleverse entièrement, change ma vie, normalement. À chaque fois que je vois quelque chose de beau, je me dis, tu ne devrais pas vivre comme une brute, il faut absolument que tu changes ta vie. Bon, puis je retourne à mes vulgarités habituelles. Mais quand même, il y a quelques petits progrès au fil des années. L'expérience du beau est totale, mais aucun art n'est total. C'est justement ça, la pauvreté de l'art, et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas confondre l'expérience de la beauté et celle de l'art, mais ça sera le programme de nos prochaines rencontres, si vous revenez. Le texte qui est au-dessus est du même aloi. Je ne doute pas, mais je suis sûr dans ma conscience, Seigneur, que je t'aime. Tu as frappé mon cœur et je t'ai aimé. D'ailleurs, le ciel et la terre et tout ce qui est en eux, les voici, et de partout, ils me disent de t'aimer. Eh bien, qu'est-ce que j'aime quand je t'aime? J'ai interrogé la terre, elle a dit, ce n'est pas moi. Et tout ce qui est en elle a fait le même aveu. J'ai interrogé la mer, les abîmes, les êtres vivants qui rampent. Ils ont répondu, nous ne sommes pas ton Dieu. Cherche au-dessus de nous. J'ai interrogé les brises qui soufflent et tous les espaces aériens ont dit avec ceux qui les habitent, Anaximène se trompe, je ne suis pas Dieu. J'ai interrogé le ciel, le soleil et la lune, les étoiles. Nous ne sommes pas le Dieu que tu cherches, disent-ils. On voit bien toute la quête de saint Augustin vers les choses, toute la quête esthétique. Et j'ai dit à tous les êtres qui entourent les portes de ma chair, dites-moi sur mon Dieu. Puisque vous ne l'êtes pas, dites-moi sur lui quelque chose. Et ils se sont écriés d'une voix puissante, c'est lui-même qui nous a faites. Où l'on retourne à la création. Et voici la conclusion de notre soirée. Mon interrogation, c'était mon attention, et leur réponse, c'était leur beauté. Je vous le lis quand même en latin, parce que c'est pas du tout par... Cuistrerie, encore qu'on n'en soit jamais complètement indemne, mais quand même. Si vous savez un tout petit peu de latin, lisez saint Augustin, c'est pas très difficile et c'est vraiment d'une telle beauté que vous aurez envie d'en lire encore plus. J'ai dit à tous les êtres qui entourent les portes de ma chair, dites-moi sur mon Dieu, puisque vous ne l'êtes pas, dites-moi sur lui quelque chose. Et ils se sont écriés d'une voix puissante, c'est lui-même qui nous a faites. Mon interrogation était mon attention, leur réponse était leur beauté. Interrogatio mea, intentio mea, et responsio eorum, species eorum. Mon interrogation, c'était mon attention, et leur réponse, leur beauté. Voilà.